Chef de bureau politique sur la colline fédérale à la presse, Joël-Denis Bellavance est avec nous. Salut Joël-Denis.
Bonjour Michel.
On commence avec le chef du Bloc et son caucus en isolement préventif. As-tu côtoyé ces gens-là?
Non, parce que, évidemment, tout le monde est en télétravail depuis un certain temps et je crois que le tout est arrivé lors d'un caucus qui devait préparer justement la rentrée parlementaire la semaine dernière à Saint-Hyacinthe. Donc, tous les députés et l'ensemble, en fait, des adjoints politiques du Bloc québécois devront subir un test pour déterminer si, oui ou non, ils ont aussi été contaminés par le virus. Donc, ça survient, et ça, c'est intéressant de le noter, Michel, ça survient environ une semaine avant le début des travaux parlementaires, parce que il y a un discours du trône prévu le 23 septembre, et si M. Blanchette teste positif, il ne pourra pas être présent lors de la lecture du discours du trône au Sénat. Donc, tout ça a des implications politiques, pas juste question de santé, mais aussi des implications politiques, parce que si un ou des députés sont contaminés, test positif, ils ne pourront pas se présenter lors de la lecture du discours du trône la semaine prochaine, qui marque le début d'une session qui s'annonce assez houleuse sur la scène politique fédérale.
Bon, parle-moi-en. Le début de la session, c'est le 23 septembre prochain, donc dans 8 jours. Et qu'est-ce qui est à l'enjeu, là? Le discours du trône, là, rappelle-nous les grandes lignes de ce qu'on va probablement retenir cet automne quand on va suivre la scène fédérale.
Bon, d'abord et avant tout, un discours du trône entraîne un vote de confiance. Donc, Justin Trudeau a choisi de mettre la survie de son gouvernement en jeu lors de la lecture de ce discours du trône, qui par la suite fera l'objet d'un vote de confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais tout indique qu'il n'y aura pas d'élection fédérale cet automne. Les partis d'opposition ne souhaitent pas provoquer la chute du gouvernement fédéral. Donc ça, c'est un dossier de régler, pas d'élection fédérale cet automne, à moins d'un accident, Michel, qui est toujours possible, mais j'en vois pas à l'horizon. Deuxième chose, dans ce discours du trône, le gouvernement Trudeau va présenter son plan de match pour affronter une éventuelle deuxième vague que l'on voit peut-être poindre à l'horizon. Donc, des mesures qui permettront, détailler certaines mesures qui viseront à soutenir à nouveau les Canadiens, les travailleurs, les familles, les entreprises durant cette deuxième vague. Aussi, à prévoir des mesures pour, faciliter ou accélérer une reprise économique qui, pour le moment, s'annonce timide. Donc, on peut prévoir des investissements colossaux dans certains domaines, notamment les garderies, pour permettre aux femmes de réintégrer le marché du travail. Parce que, Michel, il faut le noter, durant la présente crise économique, ce sont surtout les femmes qui ont perdu leur boulot. Et ça préoccupe au plus haut point le gouvernement fédéral. Donc, des investissements massifs dans les systèmes de garderies. Autre chose, on veut peut-être commencer à mettre sur pied aussi PharmaCare, l'assurance médicaments nationale, et un autre à surveiller, le logement social, le logement abordable, parce que la pandémie a créé des problèmes d'itinérance plus graves que jamais dans certaines régions du pays, dans les grandes villes notamment, et on voudrait s'y attaquer de façon plus sérieuse au sein du gouvernement fédéral. Donc, des mesures. Et il y aurait aussi, évidemment, on ne veut pas mettre de côté la lutte au changement climatique, quelques lignes sur l'intention du gouvernement de accélérer le virage vers une économie plus verte. Ce sont les thèmes que j'entends qui pourrait se retrouver dans ce discours du trône.
OK. Le chef conservateur, lui, Erin O'Toole, j'ai lu cette semaine qu'il devait rencontrer là, M. Legault. Y a-tu quelque chose d'intéressant qui est sorti de là? On s'est-tu fait des promesses mutuellement?
Quelques éléments intéressants à noter, Michel. D'abord, la rencontre a eu lieu hier à Montréal. C'était la première rencontre entre M. Legault et M. O'Toole. Les deux hommes ont pu apprendre à se connaître, mais surtout, probablement, à créer des atomes crochus, voir qu'il y a des atomes crochus. Deux éléments à noter. Erin O'Toole a indiqué que le Parti conservateur, s'il forme le prochain gouvernement, n'allait pas contester la loi 21 sur la laïcité de l'État. Ça, ça plaît à François Legault. Et deuxième élément, et ça, je vous dirais que ça, c'est vraiment très important, Erin O'Toole appuie l'intention du gouvernement de François Legault de faire appliquer la loi 101 aux entreprises qui tombent sous la juridiction fédérale, comme les entreprises de communication, les banques, etc. Et ça, c'est un appui qui était inattendu, je vous dirais, et qui place beaucoup de pression, met beaucoup de pression sur les libéraux de Justin Trudeau. Pourquoi? Parce que cette question divise à l'heure actuelle le caucus libéral de Justin Trudeau. Donc, c'est une décision stratégique très important de la part de Erin O'Toole. Ça place les libéraux sur la défensive et déjà, on voit les médias poser maintenant des questions aux principaux ministres libéraux du Québec, à savoir, est-ce que vous êtes d'accord à l'idée que la loi 101 s'applique aux entreprises qui relèvent, qui sont dans la juridiction fédérale, et le caucus libéral, me dit-on en privé, est fortement divisé. Donc, voilà une décision stratégique qui a déjà des effets sur le caucus libéral de Justin Trudeau.
Mais ça fait pas réel sur les vraies valeurs des conservateurs. C'est vraiment stratégique, tu sais. Dans le fond, il y en a qui sont probablement même déçus chez les conservateurs de cette position-là.
Pas forcément, Michel, pour la raison suivante. Le Parti conservateur a cette philosophie et je pense que ça fait partie de son ADN de toujours respecter les provinces et leurs choix politiques. Donc, respecter la souveraineté des parlements provinciaux en ce qui concerne le Québec, l'Assemblée nationale. Et ça, on l'a vu sous le règne de Stephen Harper. On l'a vu aussi dans le passé lorsque d'autres gouvernements conservateurs ont formé le gouvernement. Le gouvernement de Brian Mulroney, par exemple, a signé une entente qui donnait une plus grande autonomie au Québec en matière d'immigration. Donc, c'est un peu l'ADN des conservateurs de laisser le champ libre aux provinces pour légiférer dans les champs de compétences qui leur appartiennent. Donc, je pense que M. O'Toole poursuit, comment dirais-je, cette philosophie qui est propre au Parti conservateur d'accorder la pleine souveraineté aux provinces dans leurs champs de compétences.
Très intéressant. Bonne semaine. On va sans doute se reparler en début de semaine prochaine, Joël Denis. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
Bonne journée. Alors, c'est le début de la session parlementaire. Le 23 septembre, vous avez entendu les éléments qui vont se retrouver dans le discours du trône de M. Trudeau. On ne sait pas si le Bloc québécois, son chef, va être présent lors de la lecture du discours du trône parce que en isolement préventif COVID-19. Puis, M. O'Toole, maintenant qu'il est le chef officiel des conservateurs, commence son jeu de coulisses. Évidemment, c'est de la grosse politique, puis c'est correct, là. Fait des promesses, puis appuie certains principes, entre autres du premier ministre François Legault. On va s'arrêter là-dessus, 7h18, dans quelques instants, les manchettes avec Mario, et au retour, justement, on va parler avec le chef péquiste, celui qui est l'opposition, un peu, à Québec, du gouvernement de la CAQ. M. Pascal Bérubé est avec nous, restez là.